France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que l'article 3 de la Constitution française stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, l'Assemblée nationale compte moins de 6% de membres des classes populaires, alors que celle-ci représente 32% de la population. Alors, à l'approche des municipales, des questionnements, des propositions émergent afin que nos élus soient davantage le miroir social de leurs administrés, et plusieurs questions. Ce soir, plusieurs débats, même en un seul. Nos élus doivent-ils nous ressembler pour nous représenter? Le Parlement, les conseils régionaux, départementaux, municipaux doivent-ils être à l'image de la société française pour être pleinement légitimes? Le critère social doit-il supplanter celui de l'apparente compétence? Deux personnes ce soir pour en débattre. Kevin Vacher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et directeur scientifique du collectif intitulé « Démocratiser la politique », co-auteur du rapport intitulé « Tous les mêmes, point d'interrogation, portrait social de la France politique de 2002 à nos jours, un rapport qui a paru en septembre 2025. Face à vous, Paul Sebi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de l'Observatoire Hexagone, auteur notamment de l'étude intitulée « Référendums locaux, peut-on faire confiance aux citoyens ?» Une étude pour Génération Libre qui examine près de 350 référendums locaux et consultations locales depuis 30 ans. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Vous savez qu'un chômeur aujourd'hui attend plusieurs mois avant de retrouver un emploi, quand il en retrouve. Il est seul quand il rentre chez lui après avoir attendu pendant longtemps des rendez-vous, quand il a fait la queue devant les agences de l'emploi. Il rencontre sa famille et toujours la même réponse, toujours la même inquiétude. Il faut avoir connu cela pour mesurer l'angoisse du chômeur. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai attendu pendant 17 jours en 1950 une lettre d'embauche qui m'était promise et qui est venue tardivement. Eh bien, je mesure aujourd'hui quel peut être le sentiment de celles et de ceux qui attendent après l'emploi qu'on leur a promis ou qu'ils espèrent.
La voix de Pierre Bérégovoy, qui fut ouvrier, métallurgiste, maire de Nevers, député de la Nièvre, ministre plusieurs fois, premier ministre, on le sait. Et la question qui est posée en creux à travers ce témoignage, c'est: faut-il avoir été chômeur pour comprendre le chômage et ceux qui y sont? Faut-il avoir été pauvre pour comprendre la vie et le quotidien des personnes modestes? En somme, faut-il que nos représentants aient une vie à l'image de celle des Français pour les représenter justement et légitimement, Kevin Vacher?
Justement, la question, elle est importante. C'est la question de quoi on a besoin pour faire démocratie, de quelles expériences sociales, de quelle pluralité d'expériences sociales on a besoin pour faire démocratie. Ce qui est certain, c'est que l'état actuel de nos assemblées parlementaires, jusqu'à nos conseils municipaux, jusqu'aux plus petites communes, est en train de se dégrader avec une pluralité de moins en moins grande et des classes supérieures qui s'accaparent le pouvoir politique. Nous, on dit qu'elles préemptent le pouvoir politique avec une organisation du système électoral et partisan qui leur offre ce pouvoir, et une organisation du système scolaire, universitaire également, sur lequel elles peuvent capitaliser des compétences d'accès au pouvoir, mais pas forcément des compétences de prise de décision. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que sans classe populaire dans ces institutions, alors je ne sais pas si des classes populaires, par essence, prennent des meilleures décisions, mais en tout cas, sans elles, c'est sûr qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Il y a des travaux nord-américains, notamment, qui ont prouvé que les classes populaires s'intéressent ensemble au même sujet au-delà de leurs appartenances partisanes, c'est-à-dire notamment aux sujets économiques et sociaux, tandis que les classes supérieures, y compris aussi au-delà de leurs appartenances partisanes, se désintéresse de ces sujets-là. Donc ce que produit cette inégalité de représentation, en fait, c'est que les débats, les expériences populaires ne sont plus représentées dans le débat public, et ça se voit, c'est ce qui produit évidemment le désintérêt, l'éloignement des Français et des Françaises de la chose politique, en tout cas dans sa version institutionnelle, puisqu'en réalité, on sait que les Français et Françaises sont friands de la chose politique, mais que les politiques, eux, ne les représentent que de moins en moins.
Je vous pose la même question, Paul Sebi, faut-il avoir connu, traversé la dureté du chômage pour légiférer à son sujet, même pour être en empathie avec les Français qui y sont pleinement immergés parfois?
Pendant longtemps, on avait, et c'est d'ailleurs un peu le sens de la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est que les représentants pouvaient tout à fait justement incarner des classes populaires différentes, notamment sur la base d'idéologies assez puissantes. C'était le cas notamment du Parti communiste. Alors le Parti communiste, au début de la cinquième, on va dire au moins, mais depuis 45, était un parti qui a beaucoup représenté les classes populaires, mais pas seulement. Et notamment, il y avait des intellectuels qui n'étaient pas issus directement des catégories populaires, qui pouvaient représenter les intérêts des ouvriers, etc. Et c'est la même chose un peu aujourd'hui, puisque le vote ouvrier a un petit peu changé. Il s'est déplacé plutôt vers le RN. Et pareil, le RN n'est pas un parti particulièrement populaire. Enfin, on en reparlera, il y a quand même des figures populaires qui en sont issues. Mais finalement, les catégories populaires se reconnaissent aussi dans ce genre de figures qui ne sont absolument pas du même milieu qu'eux.
Mais vous répondez l'un et l'autre à moitié à ma question, si je puis dire, avant même de défendre des intérêts. Est-ce que l'expérience de la vie vécue est irremplaçable du point de vue des représentants, Kevin Vacher?
On a deux exemples. Je vais réagir notamment sur l'exemple du Parti communiste français. Pendant longtemps, le Parti communiste français a en effet incarné une représentation populaire à deux égards. La première chose, c'est que le Parti communiste était tout un attirail. C'était un monde. On parlait du monde communiste. Donc on avait les syndicats, l'éducation populaire, le Parti communiste qui organisait massivement les classes populaires et qui faisait des synthèses justement de leur intelligence collective, de ces expériences dont vous parlez. Donc il y avait la production, il y avait des institutions qui produisaient des idéologies qui permettait de produire des débats publics, des représentations politiques, et le Parti communiste faisait autre chose, c'est qu'il l'incarnait. Au lendemain de la guerre, on avait, je crois, environ 25% de catégories ouvrières à l'Assemblée nationale, essentiellement justement du fait de cette médiation qu'offrait le Parti communiste, et qui permettait une expression politique de ces expériences populaires. Donc les débats étaient du tout au tout différents à cette époque-là. L'autre exemple que je voudrais donner, qui est extrêmement récent, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place juste après le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes avait porté une critique sociale de la démocratie en posant justement ces expériences sociales de la question de l'essence, tout simplement, en posant cette expérience-là en contradiction avec des politiques publiques qui étaient jugées injustes. La Convention citoyenne a été mise en place. Alors ensuite, ses conclusions ont été zappées très rapidement par Emmanuel Macron, et c'est là qu'on se demande justement que la démocratie représentative, si elle n'est pas capable d'ingurgiter ce travail-là...
En pourcentage, la plupart des mesures proposées par la Convention ont été quand même adoptées par le gouvernement.
Plus ou moins partiellement.
En pourcentage.
Plus ou moins partiellement. Ce qui est intéressant, en tout cas, avec le processus de la Convention citoyenne, c'est qu'on avait des citoyens et citoyennes tirés au sort à parité sociale, c'est-à-dire qu'ils et elles étaient représentatives en termes d'âge, de genre, mais aussi de diplôme, de catégories socioprofessionnelles, de territoire, etc. Cette Convention citoyenne a montré que ces expériences réunies dans une salle et accompagnées par des techniciens et techniciennes, des ONG qui sont venus former les gens, tout comme des administrateurs publics viennent accompagner les élus, hein, parce que le travail d'élu, en fait, il se fait jamais seul. Cette Convention citoyenne a produit une loi climat qui était, pour le coup, la plus ambitieuse et la plus rigoureuse qu'on ait jamais produite. Donc ces expériences-là, mises dans une salle et accompagnées, elles produisent des bonnes politiques publiques.
Bon, mais je continue quand même de vous titiller avec vous, Paul Sebi. Est-ce que peut-être l'image d'Épinal d'un élu, d'un bon élu, d'un excellent élu, ce n'est pas un élu qui parvient à sortir de sa propre condition, peu importe sa trajectoire sociale, son origine, son niveau de revenu, il serait capable de se projeter dans la vie d'un autre, dans la vie de ses concitoyens, pour comprendre des vies qu'il ne connaît pas lui-même, et donc, en empathie, de légiférer en fonction de cela?
Je pense plutôt que oui, parce que aujourd'hui on pose ce débat parce qu'il y a une vraie défiance. On sait la défiance vis-à-vis de la démocratie, etc. Des votes, notamment le référendum de 2005, qui ont créé une fracture un petit peu. On s'est rendu compte que les classes populaires ne votaient pas du tout comme le Parlement et que ça posait un problème de choix démocratique. Mais parce que auparavant ça fonctionnait plutôt bien ce modèle-là où l'élu avait réussissait à comprendre en partie, en tout cas, les aspirations populaires. Mais
comment vous mesurez que ça fonctionnait bien?
Il y avait déjà un fort taux de participation, donc il y avait peut-être une confiance. Alors ça reste discutable, hein, mais il y avait quand même une confiance dans les institutions, dans notamment le rôle du vote pour s'exprimer. On sait que l'abstention touche beaucoup les catégories populaires, la jeunesse, etc. Donc il y avait quand même ça. Et je reviens peut-être sur justement la Convention citoyenne sur le climat est très intéressante pour relativiser cette importance de l'expérience, puisque quand il a fallu, il y a eu un moment où il a fallu décider s'il fallait soumettre à référendum les différentes propositions. Et toutes les personnes qui étaient censées représenter le peuple socialement ont dit non, faut pas le soumettre au référendum parce que les gens, c'est trop compliqué, ils ne comprendront pas. Et donc finalement, des catégories populaires, des gens qui sont censés représenter le peuple, ont renversé et se sont appropriés ce rôle un petit peu de technicien et se sont mis à côté, je trouve, un petit peu de la masse populaire, on va dire, si c'est un terme un peu impropre. Donc c'est un peu un exemple illustratif de ça, je trouve, quand même.
La voix de Jordan Bardella, président du Rassemblement National.
J'ai grandi donc à Saint-Denis, dans une cité HLM qui a, pour le coup, qui coche toutes les cases de la cité HLM de banlieue, c'est-à-dire trafic de drogue. T'es chez toi l'après-midi, t'es jeune, tu fais tes devoirs, t'es devant la télé, tu joues à la play parce que t'es ado, donc tu joues un peu à la play et tu entends par la fenêtre des tirs de, des bruits de fusillade. Ça me donne un regard différent. C'est pas évident parce que t'es confronté à la violence, pas seulement dans la rue, hein, t'es aussi confronté notamment à l'école. Mais là où j'ai grandi, moi, j'étais à 17 minutes, montre en main, sur la ligne 13, de Champs-Élysées Clémenceau, donc du centre de Paris.
La voix de Jordan Bardella pour Legend Mania, c'était le 10 juillet 2023. Kevin Vacher, lorsqu'on entend le récit de cette trajectoire, qu'il faut par ailleurs tempérer, car Jordan Bardella ne venait pas d'un milieu si modeste que cela, mais tout de même, qu'est-ce que cela raconte ? Est-ce que dans le fond, cela suffit comme critère pour aspirer à représenter les autres ? Quand on connaît par ailleurs l'entièreté de la trajectoire de Jordan Bardella, il n'a pas travaillé dans le secteur privé, il n'a pas eu d'autre carrière que celle d'être élu. Est-ce que cela suffit, encore une fois, pour connaître la complexité d'une existence et d'une société ?
Je crois que ça raconte plus des stratégies politiques de Jordan Bardella que d'autres choses. Et des stratégies politiques du RN qui...
Mais c'est pas le seul à raconter qui vient d'un milieu populaire.
Absolument pas, j'allais dire. Des stratégies politiques du RN et de l'ensemble de la classe politique qui savent construire des mythes, des récits populaires. Et c'est la démonstration d'une contradiction. C'est que la classe politique aujourd'hui sait qu'elle n'est pas représentative de la société. Sait que c'est un des défauts majeurs de son action, enfin de leur capacité à capter du vote, en fait, simplement. Et qu'il y a une demande forte, au contraire, de représentation. Que évidemment il y a deux choix, c'est soit représenter les gens justement tels qu'ils sont, la société telle qu'elle est, aller vers plus de parité sociale, faire monter des élus populaires à des vrais postes de pouvoir, soit créer des récits qui vont créer des mythes. Et ça c'est important, les mythes en politique, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure Paul Sébille, sur... la Convention citoyenne, je crois justement que là aussi on a un autre mythe, c'est que les participants à la Convention citoyenne ont dû endosser la mystification technique de la vie politique et cette défiance de la vie politique. Donc ça nous demande vraiment une réflexion très très large, très profonde.
Ce que je veux dire par là, pardonnez-moi, la mystification technique de la vie politique.
Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on veut faire de la politique, dans ce système-là, on est obligé d'endosser des habits de sérieux, des habits de vertu, des habits de compétence, qui ne sont pas forcément les bonnes qualités, en fait, pour être un bon élu, mais on nous fait croire qu'on doit être comme ça. Donc les membres de la Convention ont fini par essayer de jouer aux politiques, au final, et c'est ce qu'on a souvent pu observer chez des élus de classe populaire qui sont isolés, y compris dans leur groupe parlementaire, qui doivent endosser l'habit du politique, l'habit légitime du politique, et finalement se départir, se désincarner, s'éloigner eux-mêmes de leurs origines sociales, de leurs compétences sociales, qui pourtant sont primordiales, vraiment. Et une dernière chose, je pense, sur cette démystification de la vie politique, pour moi, est un enjeu absolument central, c'est sur cette compétence des élus, notamment des classes supérieures. Là aussi, elles mettent en scène une compétence, une capacité à prendre des décisions, qui en fait n'est que le fruit d'une construction. En fait, c'est le fruit...
Des décisions collectives, vous voulez dire ? Il y a un entourage,
exactement.
Il y a des administrations,
exactement,
qui les aident ?
Dès le début. C'est-à-dire que, moi je me souviens, j'ai été enseignant à Sciences Po à Aix, j'étais vacataire, moi-même je venais d'un milieu populaire, je me retrouvais à enseigner à des enfants de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, qui finalement venaient par opportunité plutôt que par engagement et qui capitalisait sur le service public, les institutions, des enseignants et enseignantes comme moi, venus de classe populaire, ensuite sur des partis et qui finissaient par capitaliser sur des collectifs en fait et pouvoir se présenter au suffrage comme les bons décisionnaires. Eux pourtant n'avaient pas d'engagement politique, pas vraiment d'idées politiques, alors qu'à côté on a des militants et militantes associatives, syndicaux, syndicales qui ont beaucoup à dire mais qui n'ont pas la capacité à capitaliser sur ces collectifs. Donc la compétence politique c'est quelque chose qui n'est pas individuel, au contraire c'est quelque chose de très collectif, en fait.
Mais pourtant, est-ce que ça effraie tant les Français que cela ? Je reprends vos chiffres, hein, Kevin Vacher, ceux de votre étude. Depuis 2002, si 2,75 millions de personnes en France se sont portées candidates à une élection une fois au moins, c'est considérable, Paul Sébille. Ça signifie que cette apparence de la compétence n'effraie pas grand monde non plus.
Non, parce que je pense qu'il y a la compétence et puis il y a la volonté aussi de représenter ses idées, mais pas forcément sa classe sociale par ailleurs, hein, c'est un peu le débat qu'on a, mais donc c'est absolument normal que, et surtout dans le contexte qu'on évoque, où les classes populaires ne sont pas représentées, qu'il y ait des gens qui souhaitent se présenter, mais l'étude montre aussi très bien à quel point il y a différents niveaux de filtres. Et je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais voilà, on se présente, ensuite il y a le filtre du parti, et ensuite le filtre de l'élection, etc., puisque Évidemment, on se présente en tant que candidat populaire, mais on est face à une population qui n'est pas totalement issue des classes populaires par ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est un cheminement qui est très compliqué. Et en plus, voilà, on commence à en parler de la structure de la démocratie, comment ça fonctionne. Les gens ne peuvent pas se positionner vis-à-vis des candidats seulement sur leur classe populaire, ni même sur leurs idées, mais aussi sur leur capacité à traduire ces idées. Et là, ça devient plus compliqué. Il faut toutes ces compétences politiques qui est le dialogue, savoir le juridique, l'économique, etc., qui, de fait, est plus compliqué à maîtriser pour les classes populaires pour tout un tas de raisons, je pense. Pas que ce soit souhaitable que ce ne soit pas le cas, mais de fait. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des initiatives qui se sont... comme je pense à l'école de l'engagement de Philippe Brun, qui est député PS, pour former justement les classes populaires à se présenter aux élections via tout un tas de formations, etc.
Alors entrons justement dans le cœur de cette étude passionnante intitulée, je le rappelle, Tous les mêmes, portrait social de la France politique de 2002 à nos jours. Et écoutons une voix, celle de Rachel Keke, ancienne députée de la France insoumise du Val-de-Marne. Elle s'adressait à ses collègues.
Je l'ai dit ici, haut et fort. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la durée de vie des gens. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au réveil. Vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main et dire, moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne, parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas.
A-t-elle raison, Kevin Vacher, Rachel Keke, d'invectiver ses collègues de la sorte? Ils ne connaissent pas ce que c'est que d'appartenir aux classes populaires?
Je pense qu'elle en a fait l'expérience, tout simplement, en passant quelques années à l'Assemblée, d'observer que les voix qu'elle portait, les expériences qu'elle portait, tout simplement, je pense qu'en face, les gens ne comprenaient pas ce dont elle parlait.
Mais alors, donnez-nous des chiffres, justement, sur cette représentativité à tempérer de l'Assemblée nationale.
Alors c'est assez énorme, c'est que aujourd'hui on a 6% de classes populaires qui sont élues à l'Assemblée nationale. On vient d'une situation qui était encore pire, on était à 2% en 2012. Et si on regarde l'ensemble des parlementaires, donc sénateurs, députés, parlementaires européens, on a une moyenne de 4% de classes populaires. En face, on a des niveaux absolument extrêmes et c'est de pire en pire. Les classes supérieures représentent 87% des élus au Parlement européen. Donc on a vraiment des extrémités, y compris avec un grand nombre de députés RN là-dedans, qui participent tout comme les autres à cette emprise des classes supérieures sur l'Assemblée. Donc quand on a une situation comme ça, des députés comme Rachel Keke ou d'autres, qui ont été peut-être moins visibilisés, mais aux origines sociales ou bien aux métiers à l'instant T populaire, évidemment se retrouvent face à des murs et des débats qui sont absolument pas les leurs. Et c'est quand même assez effarant de voir que les 32% de classes populaires que compte la France, y compris les classes moyennes, c'est pareil aussi, ne sont pas représentées et ne peuvent pas avoir des voix qui les représentent dans ces institutions-là, quoi.
Ce que montre par ailleurs l'étude et qui mérite d'être pointé, c'est qu'une légère bascule s'opère en 2017 grâce à la montée en puissance de deux partis en particulier, le Rassemblement National et la France Insoumise. Que se passe-t-il en 2017?
En 2017, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a deux tendances qui sont contradictoires. Il y a une tendance au niveau des candidatures, c'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des candidats et candidates qui ont été investis par les différents partis en 2017, la courbe continue à augmenter, c'est-à-dire que les classes supérieures sont de plus en plus candidates, elles préemptent de plus en plus l'investiture aux élections législatives. Et pourtant, les Français et les Françaises, par leur vote, finalement font un choix inverse, c'est de faire monter deux organisations politiques qui, pour des raisons très différentes et avec des trajectoires ensuite très différentes, ont choisi plutôt, par opportunisme pour le RN, par idéologie et conviction pour la France Insoumise, de faire monter des candidatures populaires. Donc ça c'est intéressant, c'est que y compris, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, sur les plus de 2 millions de personnes qui ont candidaté aux élections, il y a 30% de classe populaire donc depuis sur les 20 dernières années. C'est intéressant, c'est que y compris lorsque le champ politique, lui, s'embourgeoise de plus en plus, les Français et Françaises ont autant que possible dans l'offre politique, le réflexe, au contraire, d'essayer de faire monter des classes populaires. Et aussi, lorsque c'est possible, encore une fois, notamment dans les petites communes, bien de s'investir électoralement et de candidater. En fait, dès que les obstacles ne sont pas mis, les gens veulent s'engager politiquement et utilisent tous les moyens pour être possible, pour être représentés politiquement par des gens qui leur ressemblent.
Vous nous parlez de 2017 sans parler d'En Marche, qui, à l'époque, on s'en souvient, avait tout de même capté le discours du renouveau de ces élus qui venaient de la société civile, qui connaissaient, pour reprendre les verbatims employés, le monde du travail. Ce n'est pas En Marche qui a permis de renouveler socialement les élus, notamment les députés ?
Alors, En Marche, absolument pas. En Marche, c'est vraiment le passage de fractions des classes supérieures qui étaient plutôt des fractions issues des grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, etc. Donc ça, avant 2017, En Marche va faire monter à leur place des nouvelles fractions des classes supérieures plutôt économiques. Donc c'est plutôt un passage de personnalité, de dirigeants du monde économique au monde politique. Donc au final, c'est un débat qui se positionne entre les classes supérieures. C'est ça qui se passe. Par contre, ce qui est intéressant en 2017, c'est que il y a une montée, en effet, de sujet du renouvellement politique par le RN, la France Insoumise, En Marche. C'est un moment où tout le monde se rend compte dans la classe politique que c'est plus possible de faire de la même manière. Donc il y en a qui vont choisir de nouvelles incarnations, d'autres qui vont choisir de nouveaux discours. D'ailleurs, En Marche, comme on parlait tout à l'heure des mythes du politique et de l'obligation des politiques à essayer de faire un peu plus populaire, hein. On parlait de Jordan Bardella par exemple, qui construisait un faux récit populaire sur son histoire. Eh bien, En Marche, ils vont faire une grande campagne de porte-à-porte, où ils vont aller noter des verbatims de ce que les gens disent aux portes, en toquant les portes.
Donc, la Grande Marche.
La Grande Marche, voilà. Je crois que c'était 30 000 portes qui avaient été toquées, ouvertes, où ils avaient noté des éléments de langage à mettre dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que, y compris une personnalité comme Emmanuel Macron, qui est connu pour venir du monde de la bourgeoisie, alors lui-même n'est pas un grand bourgeois dans ses origines sociales, mais il a bien intégré la bourgeoisie, lui-même est obligé d'essayer de reprendre un discours qui n'est pas le sien pour mettre des habits populaires.
Paul Sébi, les personnes qui appartiennent aux couches populaires, elles briguent des mandats, elles se présentent à des élections, elles tentent aussi d'intégrer des partis politiques, d'y faire leur place. Pourquoi justement cette place ne leur est pas faite ou ne leur est pas donnée autant que les classes moyennes ou les couches supérieures de la population ?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, quand on voit l'exemple qu'on a entendu de Rachel Keke, bon, elle est mise en avant, elle a été mise en avant beaucoup par LFI pour tout un tas de raisons, et je pense que en partie aussi parce que elle avait eu un parcours déjà un peu militant puisqu'elle était alors je veux pas me tromper dans
syndicaliste
mais voilà, femme de ménage, à l'époque. Mais c'est pas le cas de toutes les classes populaires qui sont représentées à l'Assemblée. Donc on le disait, il y a 2% à peu près de classes populaires. Et au sein de ces 2%... sur ces 6%-là, 80% viennent soit de LFI, soit du RN. Et c'est vrai que, par exemple, au RN, donc on parlait de Rachel Keke, femme de ménage, mais il y a une autre femme de ménage qui s'appelle Katiana Levavasseur, qui, elle, est élue du RN, qui n'est pas mise autant en avant. Et je pense qu'il y a tout un tas de raisons pour ça. Donc, au RN, peut-être une forme de prudence vis-à-vis de la prise de parole des élus, mais aussi peut-être par manque... De praticité de ce que c'est de s'exprimer à l'Assemblée. C'est pas quelque chose qui est très facile, même pour des gens qui sont pourtant éduqués, donc éduqués dans le sens à la politique, j'entends.
Kevin Vacher, je reviens encore une fois sur la description minutieuse de ces parcours, de ces trajectoires des personnes issues des classes populaires. Quel blocage rencontre-t-il tout au long de ce parcours qui les empêche bien plus que d'autres de monter dans les hiérarchies politiques?
Bah, je vais reprendre l'exemple justement que vous donnez en comparaison RN-LFI à l'Assemblée nationale.
Parce que c'est ce que montre votre étude, encore une fois. Ils se présentent autant que d'autres, si ce n'est plus, à des mandats, et pourtant on les voit moins.
Tout à fait. La question c'est, et c'est dans toutes les formes de démocratie la même chose, vous mettez les gens dans une salle, y compris vous les faites élire, est-ce que vous leur donnez du pouvoir ? Et donc est-ce que vous leur donnez du pouvoir, ça veut dire ensuite, est-ce que vous construisez des incarnations qui vont donner confiance à d'autres de candidater, est-ce que vous leur donnez la possibilité de continuer leur trajectoire ? La question est importante, est-ce que vraiment on construit des trajectoires politiques de long terme qui permettent d'accéder à des positions de pouvoir. Si vous prenez un autre exemple à la France Insoumise, Caroline Fiat, qui a été députée pendant, je crois, 2 mandats, qui est devenue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc là, on a construit une trajectoire vraiment pour accéder à une position qui n'est pas que symbolique, hein, une position nationale très importante quand même. Et on en a d'autres, hein, y compris à droite d'ailleurs, je pense à René Monory, un député sénateur de la Vienne, qui est devenu président du Sénat, ministre de l'Éducation nationale. Donc dans l'ensemble du champ politique, on a des exemples où des classes populaires ont pu avoir du pouvoir. à l'inverse, au Rassemblement National, aucune de ces personnalités, aucun de ces élus issus de classe populaire n'a pu accéder à un réel pouvoir. Et même si on regarde la trajectoire que connaît le RN aujourd'hui, c'est là qu'on voit que c'est une illusion, une arnaque, le RN. En fait, le RN, en une dizaine d'années, si on regarde leurs investitures législatives, ont investi 1,5 fois plus de classes supérieures aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que le RN s'approche du pouvoir, en fait, leur réflexe est au contraire d'éloigner les classes populaires du pouvoir. Donc ils se servent d'elles comme tremplin, mais jamais pour leur donner des bonnes positions. Et ça, c'est un frein extrêmement fort pour construire des trajectoires collectives pour ces élus populaires.
Ça concerne le Rassemblement National, mais ça concerne là aussi, encore une fois, pratiquement l'ensemble des partis du champ et de l'échiquier politique. Je vais te donner un seul chiffre issu, là encore, de votre étude intitulée « Tous les mêmes, portraits sociaux de la France politique de 2002 à nos jours ». 87% des eurodéputés français appartiennent aux classes supérieures, ce qui fait de ce scrutin le plus socialement discriminant de ces dernières années. Comment on l'explique ?
Alors, on l'explique par des effets propres aux institutions européennes, à l'imaginaire qu'on leur donne. 87%. C'est énorme, c'est énorme. Aux élections de 2009 européennes, on était aussi à 0% de classe populaire. Donc, les élections européennes sont un peu un archétype, vraiment. Alors que pourtant, parmi les candidats et candidates, les gens candidatent massivement, y compris les classes populaires, parce qu'on a plein de petites listes qui se présentent et qui permettent à des gens de candidater. C'est une élection auquel c'est pas compliqué de candidater. Par contre, dans les grands partis institutionnels, c'est une élection vraiment où on se sert de ça. Jordan Bardella en est encore une fois un exemple, pour faire monter des apparatchiks, en tout cas des personnalités qui viennent vraiment du sérail politique, et pour leur donner un petit peu un espace tribunicien. Donc les élections européennes sont vraiment un archétype extrêmement fort.
Et puis mode de scrutin par ailleurs par liste qui favorise toujours les nominations internes au parti et donc qui favorise et l'entre-soi et l'endogamie et les réseaux internes.
Alors oui, mais ça encore une fois ça dépend des choix politiques qui sont faits, parce que les listes aussi en moyen au contraire de faire de la mixité sociale dans les listes. Nous, on a étudié, pour prendre un autre exemple de liste, les élections municipales qui arriveront en mars prochain. Et ce qu'on a pu modéliser, c'est vraiment où se situe le plafond de verre pour les classes populaires. C'est-à-dire que dans l'organisation d'une liste, les premiers sont les plus éligibles, ceux qui ont le plus de chances d'être élus, y compris si la liste perd. Les derniers ne seront jamais élus, sauf si la liste faisait 100% des votes. Et ce qu'on a étudié, c'est que aux élections municipales de 2020, tout parti confondu, à partir du 7/10 de la liste, là, c'est là où on commençait à retrouver les classes populaires, et au-dessus, on trouvait plus de classes supérieures. Donc il y a vraiment un plafond de verre très situé qui empêche les classes populaires, même si elles sont candidates, d'accéder à des positions de pouvoir. Donc les partis font des choix, ici, en termes d'éligibilité, de positionner les classes populaires à la fin, les classes supérieures en premier.
Face à ce diagnostic que vous partagez, évidemment, Paul Sébile, puisqu'il est objectif, pourquoi êtes-vous contre l'instauration d'une parité sociale ?
Alors là, c'est... Comment on pourrait dire ça ? C'est-à-dire que le problème avec ce genre d'outils, notamment les quotas, et on le voit notamment en partie avec les quotas de genre, c'est que ça n'offre pas forcément le pouvoir, le pouvoir dont on évoquait, aux personnes visées. Je prends notamment l'exemple des élections municipales. On a des listes paritaires maintenant sur l'ensemble des communes, mais avant juste les communes de plus de 1000 habitants.
Avec des femmes et des hommes qui alternent tout au long de la liste.
Exactement. Donc on avait évidemment presque 50% de femmes dans les conseils municipaux, mais seulement 20% qui étaient maires. Et ça ne changeait pas que la liste soit paritaire ou pas. Donc on voit bien que ça ne va pas au bout de la logique, et surtout on commence, en plus on a un peu esquissé ce genre de débat, mais finalement, est-ce qu'on est ouvrier, mais de quel parti, ouvrier de quel secteur, le secteur privé, le secteur public? Et donc on va sans doute devoir multiplier les critères pour rentrer dans le quota, et qui va décider, et est-ce que finalement on sera encore dans le quota 5 ans plus tard, vu que une fois qu'on est élu, est-ce qu'on garde son appartenance,
ou est-ce qu'on s'embourgeoise?
Voilà, parce qu'on est mieux payé, etc. Donc moi je trouve qu'il y a tout ce débat là qui s'enchaîne et qui ne sert pas vraiment l'objectif, surtout que c'est pas seulement l'idée de ne pas le faire, c'est de trouver une solution efficace pour la représentation de ces gens-là, et les quotas me semblent pas la solution la plus efficace. Et je prends un dernier exemple pour ça, notamment donc sur les femmes. En France, on a des lois, notamment pour les élections législatives, pour favoriser les candidatures féminines. Et pourtant, la France a moins de femmes députées que, par exemple, des pays comme la Suisse, qui n'ont absolument pas des quotas. Et en plus, on donnait le droit de vote des femmes en 1971, donc beaucoup plus tard qu'en France. Donc,
mais la parité est quand même venue corriger l'inégalité flagrante qui existe encore, qui existait plus encore.
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est sûr, ça vient corriger une partie, mais ça ne règle pas le problème qui, je pense, dépend aussi d'une forme d'éducation, de pratiques, un travail beaucoup plus long que simplement se dire bon, on met des quotas et puis des sanctions et ça suffira pas.
Kevin Vacher, cette parité sociale par quota, est-ce qu'elle n'est pas un peu simpliste alors si on suit l'argumentaire de Paul Sébille ?
Alors je suis d'accord que c'est un processus qui est bien plus long et que la question des quotas ne suffit pas. Nous d'ailleurs on s'est positionné un petit peu différemment sur ce sujet, y compris parce que les membres du collectif qui ont participé à cette recherche ont eu des réflexions stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire les quotas ? Ça veut aussi dire que demain vous serez identifié comme monsieur ou madame quota. Alors qu'en fait le problème n'est pas là. En fait le problème, et c'est ce qu'on prouve dans le rapport, c'est que ce n'est pas l'engagement des classes populaires qui pose problème, c'est la préemption du pouvoir par les classes supérieures. Et on le voit à différents niveaux, on a expliqué le plafond de verre qui est imposé par les classes supérieures sur les listes. On le voit également dans la géographie du pouvoir. On voit que c'est dans les villes les plus riches, les plus diplômées, les centres urbains, là où il y a un intérêt politique en fait à aller prendre du pouvoir, que les classes supérieures vont aller s'investir bien plus qu'ailleurs dans les petites communes, par exemple, même si la tendance est en train de changer.
Alors comment corriger cette
préemption ? Si on a identifié que les classes supérieures posent problème, nous ce qu'on propose, c'est d'instaurer un seuil maximal de classes supérieures à toutes les élections et de dire en fait, y compris avant qu'il y ait une réforme constitutionnelle qui dise, comme pour la parité de genre, que l'accès au pouvoir doit être égal pour toute catégorie sociale, on dit aux partis politiques oser la parité sociale au sens de oser limiter le pouvoir que les classes supérieures prennent sur le pouvoir, qu'il soit local ou national. On propose de mettre un seuil équivalent à peu près à la démographie locale. Si vous avez 30% de classes supérieures comme à Grenoble, par exemple, limitons à 30% de classes supérieures. C'est bien suffisant pour enrichir de leurs expériences, mais laisser de la place à l'engagement des gens. Laissez-leur de la place, cet engagement est massif, il n'a plus qu'à exister aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous annoncerez dans les prochains jours, Kevin Vacher, avec ce collectif Démocratiser la politique ?
Eh bien, on s'adresse justement aux listes qui vont se présenter au suffrage. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques ont répondu présents, en tout cas intéressés au niveau national sur les propositions qu'on fait, sur le constat qu'on fait, qui est absolument indéniable. On dit vous avez une chance aux élections municipales, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre démocratique. Les élections municipales, c'est la première marche de l'engagement politique, de l'accès au pouvoir. C'est celui duquel on se sent proche. Donc on leur dit, osez la parité sociale. Nous, on va dévoiler deux outils qui seront accessibles et aux citoyens et citoyennes et aux listes. Une cartographie de la représentation qui permettra à chacun de regarder dans sa commune qui est le conseil municipal élu et de voir l'ampleur du problème au niveau local. Et un test de parité sociale pour juger si les listes qui sont en train d'être construites et qui seront présentées au suffrage représentent la population. Avec ces outils-là, on peut tous ensemble avancer, faire un pas en avant pour planifier justement une situation de représentation démocratique telle que la promesse démocratique nous la promet.
Et poursuivre donc le débat. Merci en tout cas à vous deux d'avoir débattu de cette question des quotas sociaux, de la représentativité de nos élus. Kevin Vacher, sociologue et directeur scientifique du collectif Démocratiser la politique. Paul Sébille, rédacteur en chef de l'Observatoire Hexagone. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vancet, Stéphanie Villeneuve, Antoine Héral, Mathias Mégy. À suivre après le journal, une question, comment faire vivre la démocratie, là encore en temps de guerre cette fois. On en parle avec l'avocate ukrainienne Oleksandra Mavichuk, prix Nobel de la paix 2022.